cette particularité qui ressort beaucoup, donc qui est l'usage des pronoms et le passage de l'un à l'autre, donc le passage du « je » au « elle » au « vous ». Donc c'est une particularité qui finalement apparaît dès la quatrième de couverture, donc que je vais vous lire. Vous êtes Viviane Elisabeth Fauville. Vous avez 42 ans, une enfant, un mari, mais il vient de vous quitter. Et puis hier, vous avez tué votre psychanalyste. Vous auriez sans doute mieux fait de vous abstenir. Heureusement, je suis là pour reprendre la situation en main. Donc finalement, on s'est intéressé à ce jeu qui apparaît dans la quatrième de couverture et on s'est interrogé finalement, qui c'est ce jeu ?
Oui, la quatrième de couverture du livre, elle reprend le jeu avec les pronoms qui a lieu à l'intérieur du livre, mais sur un mode un peu décalé. En vérité, le livre qui se centre autour du personnage de Viviane Elisabeth Fauville a la particularité de désigner ce même personnage par différents pronoms personnels selon les différents aspects psychiques du personnage. Donc soit elle est dans une relation avec les autres, un peu comme dans un roman traditionnel, et là elle est désignée par le pronom « elle », soit elle est sur le mode de l'introspection, donc qui est peut-être plus proche de celui qu'on entend dans le texte que vous avez lu. Elle se désigne à la deuxième personne du pluriel, comme si elle était à elle-même un objet difficile à appréhender. Et puis il y a un troisième temps où elle prend la parole et dans ces moments-là, elle est je. La quatrième de couverture, c'est un exercice de style un petit peu difficile qui est imposé par l'éditeur où il faut donner une espèce de coloration du livre en 5-10 lignes maximum. En plus, voilà, aux éditions de Minuit, ça doit être très court. Il y a des éditeurs qui ont des formules un peu plus longues, mais voilà, ça c'était. Il fallait voilà, donner une idée en très peu de mots. Et là, j'ai un petit peu décalé cette idée des pronoms personnels. Je pense que ça désigne plus tellement les personnages du livre. Vous, ça s'adresse plus directement au lecteur. Et je, c'est plus directement moi qui m'adresse au lecteur. Mais ce n'est pas précisément la tonalité du livre. Hein.
D'accord.
Alors, comme vous venez de le faire remarquer, il y a un jeu dans vos romans sur les pronoms. Et on a aussi remarqué qu'il y a parfois un glissement de la focalisation avec, par exemple, un « vous » qui désigne un point de vue externe, qui se transforme en un « vous » qui désigne un point de vue interne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Je ne suis pas absolument persuadée qu'il y ait un point de vue interne ou externe. À vrai dire, je m'étais fixée comme contrainte que le personnage principal allait être présent dans toutes les scènes. Donc on pouvait imaginer que c'était lui qui racontait l'histoire finalement, même si de temps en temps elle est elle, de temps en temps elle est je, de temps en temps elle est vous, il n'y a rien qui n'ait été éprouvé par un autre personnage qu'elle-même. Donc je pense que finalement si quelqu'un doit raconter l'histoire en dehors d'un narrateur omniscient, c'est bien le personnage principal, qui soit s'adresse à un autre quand elle dit je, ou s'adresse à elle-même quand elle dit vous. En réalité, je me pose beaucoup la question de l'énonciation au moment d'écrire, parce que j'ai un problème avec la troisième personne dans le roman traditionnel, du début à la fin, comme j'ai un problème avec le passé simple. Je sais bien que la troisième personne et le passé simple sont les modes privilégiés du récit et que normalement, quand on fait un roman, c'est comme ça qu'on s'y prend. Et quand j'ai commencé ce livre, je trouvais qu'il y avait quelque chose de réellement factice avec quoi j'arrivais pas à me réconcilier. Et donc, il a fallu biaiser, il a fallu acter le fait que c'est un roman, c'est une mise en scène, c'est factice, c'est un jeu. Et pour moi, c'est le pacte initial entre le lecteur et l'auteur ou le narrateur. On ne fait pas semblant de décrire une réalité ou des faits avérés, on accepte de part et d'autre de rentrer dans le roman en connaissance de cause.
D'accord.
Vous y avez déjà du coup un petit peu répondu, mais nous on avait eu cette impression à un moment finalement d'avoir le glissement de la focale vers l'enfant.
Alors pardon, je suis un peu troublée parce qu'il paraît qu'il faut que je déplace le micro, mais je... Voilà.
Pardon. Il n'y a pas de souci. En fait, nous, on avait eu un peu au moment cette impression, finalement, de voir à travers, non plus les yeux de Viviane, mais à travers les yeux de l'enfant, donc l'enfant qu'elle porte, enfin qu'elle a avec elle. Et du coup, on s'est un peu posé finalement quelle est la place de cet enfant, parce qu'il est à la fois tout le temps présent, et en même temps, il est absent par sa condition d'enfant, finalement.
Alors, j'espère qu'il est quand même présent, cet enfant. C'est intéressant que vous disiez qu'elle porte son enfant, parce qu'elle le porte, non pas parce qu'elle est enceinte, elle le trimballe avec elle, un peu comme un paquet par moment. Donc, pour resituer juste rapidement le contexte, ce personnage de Viviane Elisabeth Fauville vient de tuer son psychanalyste, et elle est... résolument seule, dans le sens où son mari vient de la quitter, elle a visiblement pas de famille, elle a pas d'amis, elle est en congé maternité, donc elle est isolée de son contexte habituel de travail, et la seule personne avec qui elle peut interagir, c'est son bébé de 3 mois. J'étais très intéressée par l'idée d'avoir un bébé comme personnage, parce que d'abord on voit pas souvent des enfants, on voit des bébés dans les livres, mais ils sont plus ou moins réduits au statut d'objet. Peut-être les enfants un peu moins, mais oui, parce qu'il y a plein de romans qui mettent en scène les enfants, mais peut-être plutôt dans la littérature jeunesse. Je trouve qu'il y a pas, il y a peu de personnages d'enfants et encore moins de bébés consistants dans la littérature. Par exemple, dans Madame Bovary, le bébé, la fille de Madame Bovary, je pense à ça parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps, le bébé est finalement souvent là, mais c'est toujours une espèce de chose qu'on a dans les pattes. Et oui, c'est une malheureuse chose délaissée par sa mère, et ce bébé n'a vraiment pas de subjectivité. Moi, j'avais envie d'avoir un personnage de nouveau-né, donc c'est... d'autant plus compliqué à gérer qu'on ne peut pas faire parler ce personnage, il n'a pas accès au langage, mais je voulais que ce bébé ait une réelle présence et une réelle consistance de personnage, et donc il fallait le faire interagir avec sa mère et mettre en scène la communication non-verbale, qui est en fait très riche, puisque ça peut passer par des vocalisations, des gestes, des attitudes, toutes sortes de choses. Et voilà, je voulais vraiment mettre en scène ce rapport. Donc vous dites que le bébé est peut-être pas... c'est quoi le mot que vous avez employé exactement ?
C'était qu'il était à la fois présent justement, ouais. par le fait qu'il est tout le temps là, et en même temps il est absent justement par le fait qu'il parle pas. Il n'a pas une interaction vocale avec elle. C'est plutôt quelque chose de physique, de corporel, et on a vraiment l'impression des fois de voir plus à travers les yeux de Viviane, mais à travers ses yeux à lui.
Oui, donc il est quand même un peu présent,
oui,
ce bébé.
Oui, c'est oui. Ça.
Oui, pour moi, il est réellement agissant, c'est-à-dire que la mère, visiblement, déraille complètement, puisqu'elle en vient à faire des choses qu'elle n'était pas, censée faire, et elle n'était en plus pas programmée pour les faire, puisque c'est une femme bien sous tout rapport, élevée dans les meilleurs quartiers parisiens et qui est allée dans les meilleures écoles. Donc vraiment, elle n'était pas prédisposée à assassiner qui que ce soit, et encore moins un psychanalyste. Mais bon, elle sort de ses gonds, et finalement, à certains moments, c'est le bébé qui la remet dans les rails, parce que justement ce bébé a une attitude un peu étrange qui consiste à être plus adulte que l'adulte, c'est-à-dire qu'au lieu de pleurer, finalement, elle, puisque c'est une petite fille, elle se calme, et c'est elle qui permet au personnage de se raccrocher tant bien que mal à la réalité, qui n'est pas le réel.
Alors justement, on en parlera un petit peu plus tard de ce rapport au réel ou à la réalité, ça viendra après. Moi, je voulais un petit peu parler du personnage de Bérénice, donc de Bérénice Borivage, qui est le personnage du Triangle d'hiver, donc le second roman de Julliadec. Et ce personnage de Bérénice me paraît intéressant parce qu'il est toujours défini et construit sur le vide, sur le creux. C'est une construction toujours par le négatif, par la négation de l'extérieur. Il est même carrément dit à un moment, donc je vais vous citer le passage, que le nom est son morphème préféré. Donc page 123. Il suffirait de dire non. Simplement non, ce morphème qu'elle manie en général avec bien plus d'aisance que son contraire. Non, monsieur, pas ici, pas maintenant, ôtez-vous de là, cessez d'entraver ma circulation. Elle ne dit pas oui. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de manière générale dans le roman, c'est-à-dire que ce personnage se définit vraiment par une négation. Je me demandais un petit peu ce que vous pouviez nous dire de ça. Est-ce que c'était une manière un petit peu d'illustrer sa fuite du réel, son manque d'emprise, voilà.
Oui, alors c'est un personnage qui est plus ou moins dans le réel, par certains aspects tout à fait, et par d'autres pas du tout, puisque c'est un personnage qui décide dès la première scène de changer d'identité. C'est une jeune femme qui est très... Alors pour le coup, c'est l'antithèse sociologique de Viviane Elisabeth Fauville. Elle a visiblement pas fait tellement d'études, elle accumule les petits boulots de manière tout à fait insatisfaisante à ses yeux, elle a absolument aucune espèce d'avenir qui se dessine devant elle. Donc, elle se dit, et elle écrit les dettes, donc il y a une situation d'urgence qui se présente à elle, et elle réfléchit que finalement, la meilleure solution consiste à changer d'identité. À ce moment-là, elle voit un film d'Éric Rohmer qui s'appelle L'Arbre, le maire, la médiathèque, où Ariel Tombal interprète le personnage de la romancière Bérénice Beaurivage. Et elle trouve que ce personnage sans nom qui s'appelle Mademoiselle trouve qu'elle a finalement une ressemblance assez grande avec ce personnage interprété par Ariel Dombal, et elle a décidé de devenir elle, mais alors vraiment de la jouer au point de l'être réellement dans la vraie vie. Ce qui effectivement peut ressembler à une espèce de fuite hors du réel. En dehors de ça, il me semble quand même qu'il y a une présence de la réalité économique, une espèce de pression économique telle qui s'exerce sur le personnage qu'elle n'est pas non plus complètement en dehors des aspects matériels. Au contraire, elle est finalement réduite à réagir en fonction de ses besoins les plus élémentaires. Voilà, elle a absolument aucun argent en poche, il faut survivre, et le meilleur moyen consistant à emprunter cette fausse identité, elle doit assumer cette fausse identité dans le réel, et donc devenir le personnage qu'elle se propose d'être.
Moi, je voulais vous parler du thème de l'enquête qui est particulièrement présent dans vos romans. Donc, il apparaît dans Viviane Elisabeth Fauville à travers l'enquête de Viviane sur son propre crime, et dans Le Triangle d'hiver par l'usurpation d'identité de Bérénice Beaurivage. Du coup, on s'était demandé, est-ce que l'univers du polar est une façon pour vous de représenter la quête identitaire des personnages ?
Ça se pose pas exactement en ces termes, c'est-à-dire que j'ai jamais eu l'idée de m'interroger sur l'identité. Malgré tout, il me semble qu'en effet, c'est ce qui ressort de manière criante des deux livres. Mais bon, ça, c'est des choses, on découvre le livre qu'on est en train de faire en le faisant aussi. La question du polar, j'en ai lu pas mal à une époque. Ce n'est pas une fascination absolue, mais oui, j'aime bien, enfin, comme tout le monde, j'imagine, aime bien être embarqué dans un bon polar ou dans un bon film policier. Pour moi, la question, c'est de créer une tension suffisante pour emmener un lecteur d'un point A à un point B. Et il me semble qu'il y a dans le polar un répertoire d'ingrédients connus, reconnus par tous, les flics, l'enquête, les interrogatoires, les indices, voilà, toutes ces choses que chacun, même non lecteur de polar, va reconnaître. Et c'est une manière un petit peu de capter l'attention pour amener vers d'autres images, d'autres sujets, d'autres thèmes, enfin pour ouvrir réellement la perspective. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment pas une invention. Enfin, il y a plein d'auteurs de polar, des Français, on peut parler de Manchette, on peut parler d'Américains comme Westlake. Ils font semblant de faire des polars, mais en réalité, c'est pas du tout des polars. Donc, oui, c'est un genre très séduisant par son répertoire d'idées communes, et puis qui en même temps ouvre plein de portes. Enfin, c'est le bénéfice de la contrainte. En réalité, on se donne des contraintes et ça permet d'aller plus loin que si on s'offrait une liberté absolue.
On souhaiterait à présent vous parler des espaces auxquels vous accordez une grande importance, ainsi qu'au lieu et à leur ancrage dans la réalité, justement, à travers la géométrie de l'urbanisme de la ville aussi, notamment à travers les chiffres et les nombres donc, qu'on retrouve dans le texte sous la forme de numéros, des tâches, des lignes de métro, des distances, des mesures, des kilométrages, des horaires, des jours, des arrondissements, etc. La liste est longue. Autant de mesures qui, justement, viennent ponctuer vos textes et que le lecteur peut se permettre de vérifier, comme si vous essayiez de créer au sein de la fiction des repères géométriques auxquels vos personnages pouvaient se rattacher. Pourquoi une telle place, justement, réservée aux nombres dans vos récits ?
Il y en a vraiment tant que ça. Ah, ouais. Il y en a quelques-uns, mais... Dans mon premier livre, je m'étais donné la contrainte que tout était inventé, c'était une fiction complète, mais tout devait être vrai et vérifiable en même temps. C'est-à-dire qu'on peut vérifier tous les lieux, toutes les dates... On peut se rendre sur place et se convaincre par soi-même que si on tourne, si on prend la deuxième à droite à partir de telle avenue, on va réellement tomber dans telle rue. Bon, bref. Il y a des choses que j'ai fait avec des repérages, il y a des choses que j'ai faites avec Google, voilà. C'était bizarre parce que j'écrivais ce premier roman et puis j'avais très très peur d'être prise en flagrant délit de mensonge. Alors que bon, j'imagine que tout le monde ne se pose pas forcément cette question en écrivant de la fiction. Mais j'ai quand même cette idée qui me poursuit que c'est pas parce qu'on fait de la fiction qu'il faut écrire n'importe quoi. Au contraire, parce qu'on fait de la fiction, il faut être le plus précis et le plus précis, le plus juste possible. Il y a une expression qui m'exaspère, c'est le flou artistique. D'ailleurs, j'ai jamais entendu qui que ce soit faisant de la... Enfin, exerçant quelques formes de création, l'employer, le flou artistique. Mais pour moi, l'art, c'est absolument le contraire. C'est la précision absolue. Enfin, est-ce que la musique est floue ? Est-ce que la peinture est floue ? Non, même quand elle est abstraite, elle est surtout pas floue. La photo peut être floue, mais c'est un choix. Donc, il y a une espèce de souci permanent de coller au réel parce que c'est parce que c'est du réel dont on parle, même s'il s'agit de le transformer, il s'agit de lui donner une cohérence, un sens, de lui faire dire quelque chose, parce que le réel en tant que lui-même, j'ai pas l'impression qu'il dise grand chose si on l'interprète pas. Donc il y a cette présence matérielle du monde qui est figurée par les instruments les plus évidents que sont les nombres, l'architecture, le cadre qui nous entoure, enfin l'espace et les mesures temporelles. Je pense qu'il y a une autre raison au fait que la ville soit très présente dans les deux livres. Dans le premier, c'est Paris qui est, on peut dire, presque un personnage du livre finalement. Parce que le personnage de Viviane Elisabeth Fauville interagit avec son bébé, interagit avec la ville. Enfin voilà, en dehors de ça, elle est dans une solitude quasi absolue. Et dans le deuxième livre, je voulais me situer dans des décors qui sont en opposition avec la ville, la grande ville oppressante. Et je voulais me situer dans des ports industriels, qui sont des perspectives complètement ouvertes. Donc on circule, en tout cas ouvertes sur la mer, on circule du Havre à Saint-Nazaire, à Marseille, et puis on retourne au Havre. Je suis aussi très préoccupée par l'espace ou l'absence d'espace qui est réservé aux personnes dans les grandes villes. Encore que ce ne soit pas vrai dans toutes les villes, mais en tout cas, je trouve que Paris est une ville mais terriblement peu faite pour les êtres humains, et je me demande quelle place il nous reste pour exister dans ce décor où tout est fait pour l'entreprise, pour les voitures, enfin pour rien qui ressemble à quelque chose d'humain, quoi. Voilà, donc c'est deux livres qui sont, je pense, très ancrés dans la géographie. Maintenant, j'en fais pas non plus un programme pour l'avenir.
Ben justement, vis-à-vis de ce dialogue avec la ville, on avait donc déjà remarqué ça dans Viviane, mais justement dans Le Triangle d'hiver, on avait vraiment cette impression que vous construisiez votre personnage en parallèle avec la ville. Donc c'est des ports qui ont été détruits durant la guerre et reconstruits. et du coup qui ont perdu cette forme d'histoire et de repère un peu symbolique. Et on avait l'impression que du coup Mademoiselle, ben, elle avait un peu ce même schéma, c'est-à-dire qu'elle tente de finalement se construire une nouvelle identité, donc celle de Bérénice Beaurivage, et qui finalement s'efface et se reconstruit, enfin vraiment à l'image de ces villes. Et est-ce que du coup c'était vraiment ce choix par rapport à ces villes?
Oui, autant la présence de Paris a découlé du personnage dans le premier livre, autant pour le deuxième livre, je suis partie des villes et j'ai abouti au personnage. Le personnage s'est vraiment créé en miroir des villes où j'avais été faire des repérages parce que je voulais un livre qui passe par Le Havre et Saint-Nazaire principalement. Et c'est pas des cadres avec lesquels j'ai une histoire particulière, c'est des villes que je connaissais même pas avant d'aller faire des repérages d'ailleurs. Mais j'avais l'intuition, j'avais lu un livre de Jean Rollin qui m'avait beaucoup beaucoup plu, qui s'appelle Terminal Frigo, qui est une espèce de tour semi-journalistique des ports français, donc des ports sinistrés économiquement. Et voilà, donc les personnages principaux sont des porte-conteneurs et des voilà toutes sortes de machines industrielles. J'avais la sensation que ce cadre-là allait me plaire et je ne me suis pas trompée. C'est des espaces qui sont très très paradoxaux parce que c'est à la fois, ils sont à la fois complètement fantomatiques parce que complètement mécanisés, donc on est face à ces machines énormes que 3 ou 4 personnes suffisent pour faire agir, et en même temps c'est vraiment les nœuds du commerce mondial, enfin tous les objets qu'on achète, tous les objets qui peuplent nos intérieurs et les magasins, et enfin voilà, quand on rentre dans un centre commercial, tous ces trucs là ils ont transité par des ports industriels. En général ils viennent de Chine, ils ont fait le tour du monde, ils ont été beaucoup plus loin que la plupart d'entre nous n'iront jamais. Et il y a cette espèce de paradoxe, je trouve, qui est matérialisé dans les ports industriels, c'est quelque chose de très très réel, de très concret, et en même temps de complètement irréel. Enfin voilà, c'est une atmosphère complètement en suspension. Et puis il y a une caractéristique de ces endroits-là, c'est que ce sont des endroits qui n'ont pas d'histoire. C'est des endroits qui sont des nœuds économiques, mais en même temps qui ont été complètement rasé par les Alliés pendant la guerre, et donc tout ce qui fonde les villes européennes, donc l'accumulation de strates historiques et l'accumulation de strates architecturales, a été effacée du jour au lendemain et s'est reconstruite selon des plans assez utopiques d'architectes en général en une dizaine d'années. Donc ça c'est quelque chose d'assez inouï, enfin c'est quelque chose qui se produit jamais dans l'histoire, enfin ça se produit quand lors d'un bombardement, mais il y a cette histoire un peu cette histoire exceptionnelle des villes qui est, je pense, à l'origine du personnage, puisqu'elle-même choisit du jour au lendemain de faire table rase de son identité. Et alors elle le fait, c'est pas du tout, ce livre n'est pas du tout une étude psychologique. J'ai vraiment refusé l'approche psychologique du personnage dans ce livre. Elle fait table rase de son identité exactement à l'image de ce qui s'est produit dans les villes, et elle se recompose à partir de rien, et on n'aura absolument aucun indice de qui elle était avant et qui elle sera après. C'est vraiment c'est un miroir de... En ce sens-là, c'est un miroir de l'architecture qu'elle traverse.
Moi, je voulais juste rebondir, du coup, faire le lien avec ce que vous avez dit auparavant sur la ville de Paris, qui vous semblait donc être une ville extrêmement déshumanisée à l'image de... Enfin, non conforme pour les humains. Et c'est assez drôle parce qu'en lisant Le Triangle d'hiver, en fait, on a aussi eu l'impression que les personnages erraient, étaient comme des fantômes, une espèce de foule, dans des endroits en fait qui seraient très déshumanisants. Alors on se demandait, est-ce que l'architecture moderne et le tout béton, donc héritier de ces reconstructions des années 50, étaient aussi déshumanisants, qui invitaient à la errance et à la perte de soi, ou bien au contraire, est-ce que c'était des lieux, justement, avec le fait que ce soit près de la mer, qui invitaient plus à l'évasion, peut-être au calme, que des villes comme Paris, par exemple?
Je trouve que ces architectures des années 50, elles sont en réalité très belles et très émouvantes. C'est des architectures qu'on a détestées
au moment où les bâtiments ont été livrés, parce que évidemment ça ressemblait en absolu, ça ressemblait en rien aux jolies villas balnéaires qui ont été construites sous Napoléon III, et que voilà, enfin il en reste quelques-unes, mais il y avait beaucoup de masures aussi, mais on a rasé tout ça et on a construit des barres de béton. Mais c'était pas n'importe quelle barre de béton, les barres de béton de Perret au Havre, elles sont incroyablement subtiles. Il y a vraiment une... D'abord, il y a un souci de la personne qui est, je pense, plus si souvent fréquent dans une architecture plus contemporaine. Il fallait reloger très rapidement des gens évidemment traumatisés dans des conditions de confort et d'hygiène qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Donc, c'est des immeubles avec le chauffage central, avec une cuisine, avec une salle d'eau. Avec, voilà, il y a un réel souci du confort des habitants. Et c'est pas une architecture spécialement monolithique, c'est une architecture en béton qui est plane, on n'a pas de toit pointu avec des pignons décoratifs, certes, mais c'est une architecture presque musicale. On a une espèce d'alternance entre les hauteurs, il y a des immeubles hauts, des immeubles bas, toutes les façades sont rythmées avec des placettes, pas des balustrades, mais des balcons. Enfin voilà, il y a toutes sortes de motifs architecturaux qui se répètent à des distances extrêmement contrôlées pour donner une harmonie d'ensemble. Et je trouve, c'est une architecture qui est de plus en plus reconnue pour sa valeur esthétique et de confort. Enfin, le Havre a été classé au patrimoine de l'UNESCO. Enfin, cela dit, maintenant, tout est classé au patrimoine de l'UNESCO.
Justement, j'allais en parler.
Mais bon, au moins, on reconnaît la valeur de cette architecture.
Du coup, nous, après, on s'est plutôt intéressé à votre écriture, aux références du coup, dont on a pu évoquer Romère, etc. Alors moi, j'ai eu vraiment un sentiment du coup d'inquiétante étrangeté en lisant vos romans, donc avec cette impression notamment d'avoir la réalité qui se dérobait, mais sans pouvoir vraiment pointer du doigt le moment où on a basculé. Donc ça m'a notamment été donné par vos personnages, donc notamment par Viviane, donc qui se sent invisible dans la rue jusque dans le cabinet de son psy, donc normalement vraiment le lieu où on est recentré sur soi, où on va parler de soi. Et en fait, finalement, j'ai eu cette impression que vos personnages essayaient de, enfin, n'étaient pas satisfaits de leur position et voulaient justement s'en extraire et finalement créer une fiction dans la fiction. Donc justement en instaurant ces différentes atmosphères de polar, de roman noir, et en passant par plusieurs rôles, donc le rôle de la victime, de l'enquêteur, du coupable. Donc c'est une donnée que je trouvais très intéressante et j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus.
Oui, c'est des personnages qui sont dans une position d'insatisfaction vis-à-vis du réel, oui. À commencer par le réel économique qui est se réduit pas nécessairement à la question de l'argent, puisque le personnage de Mademoiselle, qui devient Bérénice Beaurivage dans le Triangle d'hiver, n'a pas d'argent, mais Viviane Elisabeth Fauville, elle n'est pas à plaindre, enfin, elle gagne plein d'argent, visiblement sans trop se fatiguer, dans un bureau ou au siège d'une grande entreprise. Mais il y a une espèce de déshumanisation du monde économique qui fait que l'une comme l'autre peut-être a le sentiment de perdre son identité à force d'accomplir des tâches qui n'ont pas de sens. Et elles ont toutes les deux une manière peut-être un peu créative de recomposer le réel à leur sauce. La première en commettant un assassinat, ce qui est en effet une manière à peu près certaine qu'il vous arrive quelque chose d'intéressant dans votre vie. Et l'autre, en prenant peut-être moins de risques. Cela dit, elle prend un risque finalement assez grand parce qu'elle change d'identité. Donc voilà, il y a ce côté un petit peu ludique. Enfin, on a tous eu envie de se déguiser en quelqu'un d'autre à un moment ou à un autre. On a tous eu l'impression que la vie d'un tel était tellement plus intéressante que la nôtre. Voilà, on peut se dire, voilà, j'aimerais bien être tel ou tel, mais en fait pas vraiment. Voilà, on garde quand même le sens des proportions. Le moment où ça se heurte à une impasse, c'est qu'elle, au bout de peu de temps, sous sa fausse identité, elle rencontre un homme dont elle tombe réellement amoureuse. Et là, il y a un problème de jonction des identités, puisque ça devient plus compliqué de maintenir les apparences dans une intimité journalière quotidienne.
Oui, c'est vraiment des personnages en fait, qui se laissent rattraper par le réel, en fait.
Oui, qui sont dans une tension permanente entre les exigences du réel et les exigences de sens, qui sont, à mon avis, ça me paraît essentiel de se poser la question du sens dans ce qu'on fait au quotidien. Et donc, c'est pour ça que autant elles font par moments des choses tout à fait répréhensibles, autant l'une comme l'autre, elles ont mon affection, quoi.
J'aimerais juste, désolée Laura, je vais juste prendre la parole. Du coup, juste pour rebondir sur la réalité économique dont vous parleriez, toute petite question, est-ce que vous considéreriez du coup votre écriture comme une écriture engagée ?
Ça me paraît un petit peu suspect de prétendre faire une... Enfin, c'est pas un projet. C'est-à-dire que si on se dit qu'on va mettre un message dans la littérature, on ne peut plus prétendre à faire de la littérature. Peut-être que ça se discute, peut-être que ça n'a pas toujours été vrai, mais en tout cas, c'est mon sentiment à moi maintenant. Cela dit, s'il se dégage quelque chose qui relève de la prise de position, de l'engagement, moi ça me va très bien, oui, parce que... Voilà.
Merci.
Après ce petit suspense, pour rien.
Pour en revenir à ce que vous disiez juste avant, est-ce qu'on peut, du coup, par rapport au jeu du changement d'identité, qualifier Bérénice Bourivage de Don Quichotte ou d'Emma Bovary moderne ? Ou est-ce que ça vous paraît justement exagéré d'en arriver jusque-là ?
Ça me paraît un petit peu ambitieux quand même. Non, Emma Bovary, non, j'aime pas du tout Emma Bovary. Alors, sans du tout, c'est pas du tout évidemment un jugement sur le livre, hein, mais vraiment, c'est un personnage qui me déplaît fondamentalement. C'est un personnage qui a pas le courage de ses ambitions, enfin, tout le monde le sait. Et c'est un personnage de la. Oui, alors on peut arguer qu'elle finit par se suicider, donc ça, c'est une solution radicale. Mais en dehors de ça, il n'y a absolument aucun acte créatif dans sa vie. Enfin voilà, elle est complètement esclave de ses conceptions. C'est pas vers ça que je tendais pour mes personnages. Et Don Quichotte, non plus, parce que... Enfin, c'est des comparaisons un peu oiseuses en même temps, mais j'ai pas tellement réfléchi. C'est pas se battre contre des moulins à vent de résister face au réel qui vous oppresse. C'est pas du tout, c'est pas une cause perdue, hein, parce que je pense que l'une comme l'autre, elles existent dans cette opposition et cette résistance au réel. Donc, si on fait pas ça, on est quoi ? Bah, si on n'est pas ça, on est Emma Bovary peut-être. Ouais. Donc, voilà.
Merci.
J'aimerais revenir sur le début du Triangle d'hiver, où vous faites référence justement au film de Romère que vous avez cité tout à l'heure, L'arbre, le maire, la médiathèque, à travers le nom du personnage de Bérénice Bourivage, donc interprété par Ariel Dombal dans le film, mais qui n'est pas pourtant cité dans le roman à ce moment-là, dès le début du roman, et qui est cité très tardivement vers la page 140. Et pourtant, film auquel il sera fait référence tout au long du récit. Et lorsqu'enfin le titre du film apparaît, le premier qui surgit, c'est Pauline à la plage de Romère, avec Ariel Dombal, qui joue aussi l'un des personnages principaux, et qui justement vient un peu se substituer au titre du film qu'on attendait, L'arbre, le maire, la médiathèque, le titre qui va apparaître. Du coup, quelques passages plus loin. Mais pour le lecteur, il y a là un flou, un peu. C'est-à-dire qu'on attendait un titre, et lorsqu'il arrive enfin, on ne sait plus si c'est vraiment lui. Du coup, il y a un doute qui est instillé dans l'esprit du lecteur. Pourquoi chaque fois que l'on croit pouvoir saisir, se rattacher à quelque chose, l'élément se dérobe dans vos textes?
Je sais pas. Parce que la question n'est jamais résolue. Enfin, c'est sans doute un lieu commun, mais un roman, c'est une recherche. Enfin, c'est une espèce d'exploration continue. Et si la question est résolue, tout s'arrête, le mouvement s'arrête, la vie s'arrête, et je pense que ça rejoint le problème que j'ai avec les fins qu'on évoquait tout à l'heure quand on s'est parlé avant la rencontre. La fin des deux livres n'est pas absolument certaine et résolue, parce que j'aime pas les livres qui ne me laissent pas de possibilités d'appropriation et d'interprétation. C'est-à-dire les livres que je considère comme clos, où on me dit tout de la psychologie des personnages, des moindres situations, jusqu'à la résolution finale, et où j'ai l'impression qu'on me dit que on me donne le livre et on me dit en même temps ce que je dois en penser. Pour moi, ça c'est une espèce de littérature agressive vers quoi j'ai pas du tout envie d'aller, ni en tant que lectrice, ni en tant que personne qui écrit. Donc j'aime pas résoudre les choses. Ça veut pas dire qu'on n'avance pas, ça veut pas dire que je suis dans une espèce de jeu expérimental permanent où tout flotte et où on sait jamais où on est. Non, au contraire, je pense que ça s'accompagne d'une grande recherche de précision comme ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mais il y a cette volonté de poser des questions davantage que d'y répondre, ouais.
Alors moi, j'aimerais rebondir sur la question du cinéma, mais cette fois-ci plus dans l'influence que ça a pu peut-être avoir sur votre écriture, parce que moi, en tant que lectrice, j'ai ressenti à certains moments des passages qui m'ont fait penser presque à de l'écriture de scénario. Je pense à des dialogues, par exemple, qui sont entrecoupés par des actions entre parenthèses, exactement comme dans un script. Je pense aussi à des descriptions de décors ou de paysages où on a vraiment presque une sensation de déplacement de caméra. Et je pense aussi à une influence. Pardon, j'ai l'impression. Excusez-moi, j'avais l'impression que le micro faisait quelque chose de très bizarre. J'avais aussi à un moment le Bérénice, donc toujours dans le Triangle d'hiver, donc le dernier roman en date, se décrit un passage où elle a l'impression que la ville est une illusion, que c'est un décor de théâtre et que tous les personnages qui sont là sont des figurants, qu'on ne sait pas du tout s'ils peuvent être ou non réels. Je me demandais si cette écriture que moi j'ai peut-être qualifiée pompeusement et rapidement d'écriture cinématographique était peut-être une manière de décrire un certain type de réalité, d'appréhender peut-être le réel réalité. Voilà.
Il y a une parenté immédiate et naturelle, je pense, entre le roman et le cinéma. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans la correspondance de Flaubert, il y a plein de quand il parle de sa manière de concevoir les livres, il emploie plein de mots comme scénario qui sont pour nous des termes de l'ordre du cinéma, et donc en fait c'est comme si les romanciers avaient inventé le cinéma avant que le cinéma n'existe par moment. Mais oui, j'ai l'impression d'être autant influencée par des films que par des livres, en tout cas de manière consciente, parce qu'il y a évidemment un tas de choses inconscientes qui nous influencent. Et ça m'a été confirmé par le fait qu'il n'y a pas très longtemps j'ai participé à un travail de montage pour un documentaire, enfin pas du tout en tant que professionnelle, mais j'assistais au montage, et finalement le travail du monteur est exactement le même que le travail de l'écriture, parce que on se pose sans arrêt les mêmes questions: où commencer une scène, où l'arrêter. Très souvent il faut commencer la scène, on a écrit une scène très longue, il faut la commencer plus tard et il faut la finir plus tôt, parce que c'est beaucoup plus percutant, c'est beaucoup plus pertinent. Parfois, si on déplace une scène, en fait on se rend compte que c'est ça qu'on voulait dire, on l'a écrit dans un ordre mais en fait ça va pas, il faut tout repenser à l'envers. Il faut aller rechercher des choses qu'on
qu'on a jeté des espèces de rushs, on pensait que ça servait à rien, et puis finalement c'est essentiel pour faire la charnière à tel ou tel endroit. Donc j'ai l'impression que finalement c'est le même travail, c'est un travail de narration dans le temps, et sauf que les images sont des mots ou inversement, mais bon, la structure du travail est la même. Hein.
Alors, il y a dans vos textes une ironie, un décalage avec la situation, un humour, des pointes, des pics d'humour noir aussi, qui peut renvoyer aussi à l'esthétique de l'absurde. Entre autres, par exemple, de Beckett et de ses personnages en perte de repères. Justement, dans Viviane Elisabeth Fauville, où vous mettez en exergue une citation de Samuel Beckett, tirée de l'innommable. Donc, je vais la lire. « Je suis, depuis que je suis, ici, mes apparitions ailleurs ayant été assurées par des tiers. » Donc, à quel point Beckett vous a influencé dans votre écriture et dans ses romans?
Alors, j'ai lu Beckett en deux phases. J'ai lu un petit peu quand j'étais à la fac. J'ai vraiment rien compris et je me sentais vraiment... J'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose de très fort et qui devait m'émouvoir dans le sens me mouvoir, enfin me faire bouger, et puis en même temps je trouvais pas la porte d'entrée, mais ça m'est arrivé avec plein d'auteurs, hein. Et puis donc voilà, j'ai vu Beckett au théâtre, et très souvent ce que j'ai pu déplorer, c'est qu'on le transforme en une espèce d'existentialiste extrêmement sérieux, alors que Beckett c'est très drôle, hein. Et il y a cette espèce de... Oui, il y a cet humour très noir, très grinçant, mais qui est quand même très très présent. Donc si on fait l'économie de l'humour dans Beckett, c'est un petit peu dur au théâtre. Hein. Et après ça, quand je finissais d'écrire le livre, donc c'était vraiment très très avancé, j'étais en même temps en fac de psycho, donc voilà, j'étais en fac de psycho en train de tuer un psy, c'était tout ça très très logique. Et mon livre, il prenait un tour un petit peu trop clinique, parce que j'avais effectivement, évidemment, appris des tas de choses extrêmement sérieuses et sophistiquées, avec des mots très compliqués dans des manuels de psycho. Et puis bon, c'est comme quand on découvre un truc, on veut partager ça avec tout le monde, donc il y avait trop de mots scientifiques ou pseudo-scientifiques, et je me suis dit, c'est pas comme ça qu'il faut approcher le personnage. Je suis pas en train de faire une espèce de truc semi-fictionnel, semi-psychologisant. Et je m'en suis sortie en retournant vers Beckett. Je sais plus comment c'est arrivé. Mais à ce moment-là, j'ai relu Beckett et là, je me suis dit, mais c'est ça. En fait, c'est une voix avec un X, c'est une voix qui est à côté. C'est pas, je suis pas en train d'imaginer ce que c'est que la folie avec mes moyens de personne à peu près normale. Il faut tout décaler. Il faut sortir de mon système. Il faut sortir de ma logique et plonger dans cette espèce de logique parallèle qu'est l'innommable. Parce que l'innommable, c'est très curieux. C'est un livre qui parle. C'est un livre sans personnage qui parle de rien. Et pourtant, une fois qu'on rentre dedans, on le lit sans aucune difficulté du début à la fin, il me semble. Mais il faut trouver la porte d'entrée. C'est-à-dire qu'il faut que la porte psychique soit ouverte au bon moment. Donc c'est vraiment un livre qui m'a aidé à terminer mon roman. Mais après, je me suis aperçue d'autre chose, c'est que dans le livre, il y a plein de motifs, mais alors des choses très concrètes comme le rocking chair, la présence des horoscopes, qui sont des choses qui apparaissent beaucoup dans un livre de Beckett qui s'appelle Murphy, que pour le coup j'ai pas relu et que j'avais lu 20 ans plus tôt, mais sans aucun souvenir conscient. Et là, j'ai vraiment l'impression que oui, l'inconscient, il est, enfin, l'inconscient ou l'impensé, comme on peut dire. Oui, il engrange des choses qu'on oublie, mais en fait on les a pas oubliées, elles ressortent au bon moment. Donc il y a en fait le texte, il est imprégné de Beckett, mais de manière totalement inconsciente.
Je voudrais juste revenir sur un parallèle du coup entre Viviane et Elisabeth Fauville et le triangle d'hiver, parce que quand je les ai lus, j'ai trouvé entre eux quelques similitudes du fait du thème de la folie, de la perte d'identité, et surtout du fait que le triangle d'hiver commence à l'endroit même, donc au Havre, à l'endroit où c'était fini votre premier roman. Et du coup, je voudrais savoir ce que vous pouviez nous dire sur ces romans, qu'est-ce qui fait qu'ils se rejoignent et qu'est-ce qui, au contraire, les sépare.
Oui, le triangle d'hiver commence géographiquement là où finit Viviane Elisabeth Fauville, parce que quand bien même Viviane se passe entièrement à Paris, en réalité le dernier chapitre se passe au Havre. Et j'aimais bien cette idée. C'est quand même douloureux de finir un livre. Hein. On a passé 2 ans avec des personnages. Alors en se plaignant tout le temps, évidemment, mais quand c'est fini, bah c'est un peu douloureux. Donc c'était une manière de finir sans finir, de recommencer une première scène là où la dernière s'était achevée. Il y a aussi une continuité peut-être plus profonde que la continuité géographique, c'est-à-dire je pense qu'on peut pas détacher l'écriture du moment de l'écriture, enfin on peut pas détacher l'écriture de la situation d'écriture. Quand j'ai écrit Le Triangle d'hiver, je venais de publier Viviane Elisabeth Fauville et je faisais de la promotion, ça a duré un petit moment. Et donc j'étais sans arrêt renvoyée à ce personnage, tout en voulant m'en détacher, parce que bon, en même temps, une fois qu'un livre est fini, voilà, c'est une histoire qui s'achève pour passer à la suivante. Mais il y avait cette espèce de réflexion par rapport au personnage qui s'éloignait de plus en plus dans le temps. Et je pense que Bérénice Borivage donc est aussi construite en opposition, dans le sens où c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Viviane Elisabeth Fauville, elle est quand même psychiquement vraisemblable. Il y a toute une espèce d'armature psychiatrique, psychanalytique, tout ce qu'on veut, qui fait que c'est un cas de folie plausible. J'en ai parlé avec des psychiatres, donc ils me l'ont certifié, ça m'a rassurée. Bérénice Borivage, le psychisme, c'est pas son problème, vraiment pas. C'est une espèce d'exercice de style poussé à l'extrême dans la vraie vie, c'est-à-dire je ne suis plus celle que je suis quelqu'un d'autre, et on fait table rase. Donc le paradigme psychologique n'a plus cours dans le deuxième livre. Mais bon, s'ils s'opposent, ça veut dire que quelque part ils s'articulent aussi, enfin ils fonctionnent l'un avec l'autre.
Donc, pour commencer à amorcer la conclusion, nous avons un journaliste du Monde qui s'appelle Pierre Lepape, qui dit de Jean Echenoz, donc un auteur des éditions de Minuit, je cite, « que son écriture n'adhère pas, qu'elle n'est pas destinée à coller au réel, mais à d'autres usages beaucoup moins gluants ». Et je voulais savoir, étant donné que vous vous reconnaissez vous-même d'une certaine influence de Echenoz, nous l'avons vu dans certaines de vos interviews précédemment, mais aussi d'un certain style peut-être imposé, en tout cas un certain style reconnaissable des éditions de Minuit, ce que cette affirmation vient peut-être éclairer sur votre propre écriture. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette affirmation ou non? Et surtout, voilà, quelle est votre manière à vous d'appréhender ce réel qui serait peut-être trop gluant, justement, pour vos propres personnages?
Mais elle est bien, la citation, hein. Bravo. Oui, enfin, l'écriture adhère pas au réel ou se définit en opposition avec le réel, mais en même temps, le réel, le réel n'est pas cohérent avec lui-même. Enfin, le réel, quoi qu'on en dise, le réel, c'est quand même une somme de perceptions et d'interprétations qui divergent en permanence. Enfin, ne serait-ce que parce que chacun d'entre nous perçoit différemment les couleurs, les sons, les goûts, voilà. Donc on est obligé de négocier avec ces perceptions qui se recoupent jamais, et le seul moyen de s'entendre au milieu de ça, ou qui se recoupe mais qui se recouvre jamais totalement, le seul moyen de faire avec ça, il me semble que c'est le langage. Donc finalement, il n'y a pas tellement d'autres solutions en réalité. je vois pas. Quand on y réfléchit, il n'y a pas grand-chose de plus réel que l'écriture ou le cinéma ou la musique ou des choses qui vont durer, parce que l'économie, il n'y a rien de plus irréel que le monde économique, donc qui repose entièrement sur des constructions complètement factices et abracadabrantes. Donc la question, en fait, elle est mal posée. C'est le réel qui devrait se définir par rapport à l'écriture.
C'est une jolie conclusion, c'est joliment dit.
Il y a juste comme ça une question qui m'a fait tilt avant que vous disiez que vous n'aimiez pas du tout le personnage d'Emma Bovary. Mais je crois que c'est drôle, en fait, parce que vous y reveniez plusieurs fois. Vous en avez parlé à un moment durant cet entretien, on en a parlé aussi avant. Du coup, je trouvais que c'était marrant, finalement, que vous ne l'aimiez pas du tout, parce que vous le replacez souvent, en fait, finalement.
C'est vrai. Enfin,
ouais.
On a déjà parlé tout à l'heure.
Ah oui.
J'ai un problème de mémoire, apparemment. Mais oui, mais parce que je l'ai relue cette année, et elle m'a tellement agacée. Autant j'aime l'éducation sentimentale, autant Madame Bovary, mais évidemment, quoi, on ne peut être que fasciné par Madame Bovary. Mais c'est bien de détester un personnage. Hein. Moi, j'aime bien quand on me dit qu'on me déteste. Il y a des gens qui détestent Bérénice Borivage. C'est pas que je veux faire un personnage qu'on déteste, mais en même temps, ça veut dire qu'on a une réaction forte, et ça me paraît bien.
Je vous propose, du coup, pour conclure, de lire un extrait de votre dernier roman, donc Le Triangle d'hiver. Du coup, j'ai sélectionné cet extrait parce que je l'avais trouvé vraiment très fort et vraiment qui en disait à la fois beaucoup et peu. Et j'ai trouvé très poétique. Enfin, voilà.
C'est super, hein ?
Oui, c'était ça.
Pourtant, je suis saisie de brusques envies de déranger. Hier soir, par exemple, comme l'inspecteur n'était toujours pas rentré à 22h, j'ai pénétré dans sa chambre et j'ai de nouveau fouillé les tiroirs impeccablement rangés par Madame Hernandez. Cette fois, le dernier de la commode ne m'a pas résisté. Je suis tombée sur une panoplie de femmes du monde, des pièces ondoyantes dont les étiquettes avaient été arrachées, ainsi que plusieurs paires de talons vertigineux. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir des affaires d'une morte, d'une ancienne compagne de l'inspecteur qui ne parvenait pas à s'en détacher, et je l'ai imaginé le soir, enfermé dans sa chambre, vouant un culte à la défunte sous le halo de la lampe de chevet. J'ai souri. Puis je me suis demandé qui pouvait être cette femme trop apprêtée, saucissonnée dans des tenues inconfortables, comme si elle posait pour un reportage dans Madame Figaro. Et je n'ai certes pas pensé qu'il gagnait au change avec moi, mais je me suis dit « bon débarras ». Dans le tiroir, il y avait aussi un exemple défraîchi d'une pièce de Jean Racine, des stylos feutres et un carnet décoré de motifs en strass. Les pages avaient été remplies d'une écriture menue et régulière que je n'ai cependant pas réussi à déchiffrer, les lettres ayant été transformées en longues traînées bleues par un déluge de pluie salée. J'aurais voulu interroger l'inspecteur, mais je n'allais tout de même pas avouer que j'avais perquisitionné sa chambre en son absence. Dire maintenant, tu vas m'expliquer ce que ces déguisements fabriquent dans ton tiroir et ce qui était écrit dans le carnet. Il aurait trop beau jeu de mentir. L'inspecteur connaît un tas de mensonges, son préféré consistant à ouvrir de grands yeux pour déclarer « Allons, tu sais très bien de quoi je parle puisque tu y étais, alors qu'il sait parfaitement que je n'étais nulle part et qu'à continuer ainsi, il va me mettre en colère. Oui, je préférerais quitter l'appartement plutôt que de chercher à obtenir de lui des explications. »
Merci beaucoup. Voilà.